Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez toujours aussi bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'une belle découverte de ma part. Il s'agit de Rando Plein Air, un organisme à but non lucratif spécialisé dans les activités de marche. Je dis découverte, mais je m'empresse d'ajouter que Rando Plein Air offre depuis 1981 une gamme impressionnante de destinations pouvant répondre au goût et à la forme physique de chacun. Ce qui m'interpelle particulièrement chez Rando Plein Air est la mission de l'entreprise, formulée par sa fondatrice et présidente Nicole Beauvais. En deux mots, son but est d'inciter les gens à marcher vers le bien-être, qui est en lien, évidemment, avec l'esprit qui anime notre émission « Marcher vers le bien-être ». Lorsque je l'ai rencontrée à ses bureaux récemment, Mme Beauvais m'expliquait que si la marche est un moyen de transport, un loisir, un sport, une façon d'aller vers l'autre, elle est aussi une forme de méditation et de recueillement. Et c'est pour cette raison que son agence offre des marches autant pour les contemplatifs que pour les férus de montagne. Lors de notre conversation, d'ailleurs, Mme Beauvais me disait être très fière des commentaires de centaines de personnes pour qui la vie avait été totalement améliorée par cette activité simple et accessible qu'est la marche. Alors, pour nous parler de cette belle aventure qu'est Rando Plein Air, j'ai le grand plaisir d'accueillir en studio deux guides et collègues de Mme Beauvais. Il s'agit de Martine Brouillot et de Marie-Josée Turcotte. Alors, bonjour à vous deux et merci beaucoup de prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui.
Ben, merci, bonjour. Denis, de l'invitation. C'est un plaisir.
Ah, avec des beaux sourires comme ça. Waouh!
Ben oui, c'est la marche en randonnant.
C'est la marche. C'est toujours la marche. Vive la marche. Alors, avant de parler de rando plein air, j'aimerais revoir avec vous votre parcours de vie en ce qui a trait à la marche. Alors, Martine, vous êtes cinéaste, grande voyageuse. Comment la marche est entrée dans votre vie?
Écoutez, je devais avoir entre 11 et 12 mois quand j'ai commencé à marcher.
Ça vous donne une idée.
Puis j'ai jamais arrêté. Non, mais moi, avant d'arriver au Québec, j'ai travaillé 12 ans à Paris. Donc, à Paris, avoir une voiture, c'est l'enfer.
Oui.
On n'a pas le choix que de marcher. Mmh. Alors que ce soit du lieu d'habitation jusqu'au lieu du travail. Donc, j'ai toujours marché. J'avais un papa, moi, caméraman et puis photographe qui rêvait en fait d'être garde forestier. Donc dès qu'on avait un moment, on s'en allait marcher en forêt.
Oui.
Et puis c'est resté. Je suis arrivée au Québec parce que j'avais envie d'espace et puis de marcher sans voir un être humain. Donc j'ai eu le loisir et le plaisir de faire cela jusqu'à ce que je décide d'aller voir d'autres êtres humains qui font la même chose que moi. Mm-hmm. Et puis j'ai parcouru le Québec grâce à mon travail de réalisatrice qui m'a amené donc dans des régions où vivent les gens des Premières Nations et au Nunavik où vivent les Inuits. Donc là c'est pareil, si vous voulez rencontrer les gens dans leur contexte de vie, c'est pas assis dans une voiture, donc il faut marcher puis aller vers eux puis vivre avec eux. Donc le goût de la marche a toujours été là de façon différente, a évolué. Et puis, c'est ça qui m'a donné le goût de voyager ailleurs aussi, avec des groupes ou seul, en marchant.
Et c'est ailleurs qu'on prend les montagnes, si j'ai bien compris, le Népal, entre autres.
Ben oui.
Vous êtes amoureuse Népal. Des montagnes, ou du Népal.
Oui, j'avoue que oui, les montagnes du Népal. Je veux dire plus du Népal que des montagnes.
Oui,
moi, je suis pas une ascensionniste.
Okay.
Donc, à cause d'une blessure. Et puis j'ai jamais tendu vers le camp de base de l'Everest, tout ça, c'est pas ma tasse de thé. Mais marcher et aller voir les gens dans leur village, vivre avec eux, emmener des gens justement dans ces villages où on va pas forcément parce que il y a des treks et puis faut suivre le trek, le chemin qui est déjà fait. Bon, il y a une partie que je peux faire, mais moi j'aime bien dévier du chemin tout en ayant des gens, des locaux. Mm-hmm. Qui sont avec moi, parce que ça, il est hors de question de voyager dans ce pays-là sans avoir des guides népalais. C'est leur métier d'abord et demi. Et puis, c'est trop dangereux. On peut le voir de façon régulière. Il y a des gens qui se perdent, des gens qui se blessent, qu'on retrouve pas ou qu'on retrouve sans vie. Puis ça, je trouve ça bien triste que d'avoir voulu partir seul pour un exploit qu'on veut faire seul. Mais on vit tous ensemble.
Et vous avez fait des documentaires, vous êtes cinéaste, c'est ça?
Oui, je fais des documentaires.
Vous pouvez nous parler un peu de certains des documents?
Oui, ben j'en ai fait un, notamment au Népal, sur les femmes des montagnes, en 2014. Oui. Et c'est comme ça que la piqûre de l'aventure et de l'image, ces deux piqûres-là se sont mêlées, en fait, puis sont pas indissociables. Hein, le documentaire, pour moi, c'est vivre avec les gens. C'est pas, je vais pas répondre à leur place, je vais pas leur faire dire ce que je veux entendre. Je reste un temps avec eux, je vis avec eux, que ce soit confortable ou pas confortable. Ça, c'est ma tasse de thé à moi. Et puis,
c'est leur vécu. Hein,
c'est ça, c'est leur vécu. Donc, moi, on m'entend pas, on me voit pas, mais c'est eux qui se livrent à moi. Donc, il faut établir la confiance. D'abord.
Ah oui, oui.
Et oui, parce que c'est pas des gens dans les villages qui savent à peine lire et écrire, pour ne pas dire qu'ils ne savent pas, pour la plupart. Donc, arriver avec une caméra, ça peut être impressionnant. Donc, la caméra est posée quelque part, il la voit, il la touche, et puis après, ben, on fonctionne ensemble.
Est-ce que c'est un peu la même chose auprès des Autochtones, des Premières Nations du Québec? Il faut apprivoiser un peu là les gens de l'endroit, du village, de la communauté.
Ben oui, mais alors là, c'est là tout le défi. C'est parce que quand on est en production, vous savez qu'on peut se rendre au Nunavik ou ailleurs, mais on a 2 jours et demi pour faire un documentaire. Donc là, apprivoiser du monde en 2 jours et demi, ça veut dire, ben moi, souvent, quand c'était possible pour moi, j'allais rencontrer les gens avant.
Auparavant, c'est ça.
Oui, oui. Mais ça, c'est ma façon de travailler. Parce qu'arriver, puis les Premières Nations sont pas des gens qui sont très, bien que tous communiquent de façon orale, beaucoup, hein.
Oui.
C'est pas des gens qui sont bavards. Donc, on peut poser une question puis avoir un oui ou un non. Mais on fait pas un film avec ça.
Non. À moins d'avoir de très bonnes images.
C'est ça.
Ça prend beaucoup de voix. Or,
il faut quand même une belle histoire derrière tout ça.
Oui. Dites-moi, est-ce qu'on peut visionner vos documentaires?
Alors, moi, je dis toujours certainement. Mais je suis pas toujours à l'affût de ce qui est en ligne ou pas. Mais c'est des séries, un monde à découvrir. C'est passer à TV5, TFO, il y en a d'autres à RDI, mais là, c'est dans d'autres cadres. Donc, faut faire la recherche. À mon nom, peut-être, ça doit apparaître à un moment donné.
Alors, on mettra quelques références en ligne.
Voilà.
Voilà, c'est bon. Excellent. Alors, Marie-Josée, ah ben là, c'est les années 70, c'est le sac à dos, c'est, on part à l'aventure, c'est ça? Avant ça, la piqûre de la marche?
Ben, la piqûre de la marche depuis toujours. Ça m'a fait sourire quand j'étais entendue, Martine, parce que là, je vois qu'on a un point en commun que je ne connaissais pas. Moi aussi, j'avais un papa qui était vraiment amoureux de la montagne et de la marche. Et j'ai toujours un souvenir, presque à chaque fois que je vais marcher en forêt, je me rappelle de ce moment-là. Mon père est originaire des Cantons de l'Est et on vivait dans un petit village qui s'appelle Windsor. À l'époque, tout le monde disait Windsor Mill.
Oui, ouais, absolument.
Au bord de la rivière Saint-François, pas très loin de Sherbrooke. Et il y avait un petit boisé dans ma tête, c'était une forêt évidemment enchantée, mais mon père nous avait amenés, moi et mon frère, on avait quoi, 6 et 4 ans, puis on marchait avec lui dans le boisé et tout, puis à un moment donné, il s'arrête, et à cet âge-là, nos parents sont toujours des géants, alors il sort un petit canif de sa poche, puis j'ai l'impression que c'est un géant là, qui se présente, et il y avait un sapin, il y avait de la gomme de sapin, et là, ils en coupent des petits morceaux, ils nous donnent chacun un morceau en nous disant « goûtez à ça ». Ça, c'est de la gomme de sapin. Là, on le regarde en voulant dire, est-ce que tu me niaises? Et maintenant, à chaque fois que je vais dans le bois, dans la forêt, j'ai toujours ce petit goût piquant dans la bouche qui revient. Puis, c'est ça, mon père adorait la montagne. Il nous a raconté plein d'histoires de sa jeunesse dans les montagnes et tout. Alors, ce goût-là est venu très, très jeune. Plus tard, on est déménagé à Montréal. J'avais plein de cousines de notre âge. On allait se perdre à Saint-Hilaire les fins de semaine parce qu'on pensait que nos parents nous voyaient pas dans les sous-bois, évidemment. Ils savaient tous où on était. Mais c'était le plaisir d'aller, bon, s'écarter des adultes. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, à ce que vous disiez tout à l'heure, Denis. Oui, donc fin des années 70, en fait 79, là, ça me rajeunit beaucoup ça. Quand je suis partie de l'université, j'avais déjà averti mes parents plus qu'un an à l'avance. J'avais dit, moi, quand je finis l'université, je pars. Je pars. en voyage. Et mon père avait dit, tu feras pas ça. Et ma mère a dit, vas-y.
Et maman a gagné.
Mais maman a gagné. Là, elle me disait, oh, j'aimerais tellement être à ta place. Vas-y, vas-y, vis cette aventure-là. Alors, je suis partie, évidemment, innocente.
Là, c'est le sac à dos. Pas tellement préparé, un peu d'argent.
À peine préparé. Puis, ouais. Un billet d'avion ouvert un an, c'était la seule préparation.
Ça, oui. Ça se faisait bien à l'époque aussi.
Oui. Donc, Montréal, Amsterdam. Puis, à partir de là, je suis descendue, bon, toute l'Europe. Je suis allée jusqu'au Soudan, en Afrique. Je voulais descendre plus bas. Il y avait une épidémie, je me souviens. Malaria, je pense. On ne pouvait pas descendre. Je suis revenue, mais ça a été des moments très marquants parce que d'abord, oui. C'était à pied tout le temps. J'ai aimé marcher. La marche a toujours fait partie de ma vie. Et au bout de 4 mois, j'avais transpercé mes chaussures tellement je marchais. Comme j'avais pas beaucoup d'argent, il a quand même fallu que je trouve des chaussures. Et non, je marchais. Et d'ailleurs, dans les premiers mois du voyage, je voulais rien manquer. Je voulais voir tous les musées, je voulais tout voir.
Ah, oui, oui.
Puis à un moment donné, on s'est retrouvé une gang de jeunes dans un petit village à Cassis, près de Marseille, dans un petit studio. On était 5 dans ça. On a passé un mois. Puis là, à partir de là, je me suis rassise. Et là, j'ai commencé à faire le voyage dont je rêvais, c'est-à-dire de vraiment aller vers les autres, vraiment prendre le temps, arrêter de courir pour tout voir, mais vivre le moment présent, vivre l'endroit, sentir l'endroit, aller voir des gens. Et ce voyage-là a été complètement différent à partir de ce moment-là.
Ça a changé votre vie, évidemment, complètement.
Ça a changé ma vie. Je parle encore aujourd'hui, ça fait 79, je ne sais plus compter, 40 quelques années. Et je dis encore ma vie, c'est avant et après ce voyage.
C'est un basculement complet.
C'est un basculement, c'est une espèce de petit voyage initiatique. Puis ça nous permet d'aller vers les autres, mais vers nous également.
Oui.
Savoir un petit peu mieux qui on est.
Oui. Et puis, au fil de votre vie, bon, vous avez eu une super belle carrière comme journaliste et animatrice à Radio-Canada, au sport, entre autres. Ben, le sport, c'est pas la marche. Ou en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Et je viens de compléter une autre émission. Marcher n'est pas un sport. C'est tout à fait différent et je crois que vous seriez d'accord. Et alors, on part d'une belle carrière, on parle de sport et là, on arrive à rando planaire. Comment il y a un changement d'optique là assez intéressant, non?
Ben, on n'est pas unidimensionnel dans la vie et ce qui est bien avec la retraite, c'est qu'on a du temps, ce qu'on n'a pas souvent quand on travaille, qu'on a une famille, ça prend pas mal d'espace. Et ben moi, c'est ça. À partir de 2017, ma fille était plus vieille, j'avais un peu plus de temps et je me disais, ça me manque trop, il faut que je recommence à faire plus régulièrement de la randonnée. Et comme je travaillais encore, je cherchais des groupes qui partaient peut-être une journée pour aller faire des excursions sans avoir à prendre ma voiture et tout. Et puis, bon, j'ai découvert rando plein air comme ça sur Internet. J'ai essayé, j'ai aimé.
Ah, tiens,
j'ai pas pu acheter la compagnie, c'est pas avant. Mais j'ai adopté la compagnie. J'ai essayé d'autres groupes et tout, et c'était pas aussi comment je dirais le mot me vient pas, mais c'était pas aussi bien organisé, mais c'était pas aussi bien je trouve pas le mot. Ben, c'était pas aussi charmant.
La formule est différente, c'est ça quand même.
Mais moi ce que j'aime de rando plein air, puis j'ai pas répondu complètement à votre question en fait. En connaissant ce groupe-là, quand j'ai pris ma retraite, j'avais jamais fait les marches du dimanche sur le Mont-Royal et je me suis dit, tiens, je vais aller faire les marches, je vais en faire une d'abord et voir si j'aime ça. Et je me souviens encore le matin où je me suis dit que j'y allais, c'était en avril, je me lève, je suis en train de déjeuner, je regarde dehors, je fais, wesh, il y avait une espèce de pluie, de neige mouillée, je fais, oh, j'y vais pas. Puis là, j'ai fait, non, franchement, si tu veux faire des voyages de marche, il fera pas toujours beau, go.
Oh.
Et là, je suis allée, puis j'ai fait des super rencontres, du beau monde, et il y avait une des guides qui était là ce matin-là, c'était Loutia Barmatler, qui est une guide, et avec qui j'avais fait un voyage avec rando plein air sur l'île de Majorque et à Barcelone. Alors, j'étais toute contente de la retrouver et tout. Et de fil en aiguille, elle me dit, t'aimerais pas être guide? J'ai jamais pensé à ça de ma vie.
OK, oui.
Donc, vraiment, c'est un cadeau de la vie, et puis... ce que j'aime de rando plein air, c'est ça, c'est son offre qui est variée. Il y a autant des marches citadines, donc ça s'adresse à des gens qui ont juste envie de marcher en ville, de découvrir un quartier. Il y a des marches sur le Mont-Royal, il y a des marches d'un jour, il y a des marches de court séjour, 2 à 5 jours, et il y a des longs séjours de 2 semaines. Donc c'est autant ici qu'à l'étranger. Donc l'offre est très variée, même les niveaux de marche aussi sont variés. Donc ça peut s'adresser à plein de monde.
Nous allons y revenir dans quelques instants. Martine, en fait, vous nous avez mis au parfum tout à l'heure, pourquoi vous êtes à Rando, ben, et Rando plein air, mais depuis 2016, c'est ça, oui, ça fait comme, oh, quand même 8 ans, là.
Ben moi, je connaissais Linda Fortier, qui est guide à Rando depuis plus de 25 ans, je pense.
Mmh. Ah oui.
Et j'étais allée au Népal une première fois en 2009 avec Linda. Et puis, en 2015, je me trouvais encore au Népal au moment du tremblement de terre. Donc, j'étais à Katmandou. Oui. Et ben évidemment, ça m'a secouée, comme tout le monde. Hein, mais je suis revenue saine et sauve. Et à mon retour, j'ai décidé de créer une fondation pour soutenir un village que je connaissais. Mmh. Et puis, ben, Linda, me connaissant, étant aussi allée au Népal avec Rando plein air une première fois, m'avait dit, écoute, faut que je te présente à Nicole Beauvais absolument. Faut qu'on fasse quelque chose pour la fondation. Bon, je m'en vais marcher avec Linda et Nicole. Et puis, ben, ça clique. Et Nicole accepte de faire une marche levée de fonds spécialement pour la fondation. Et puis que j'explique ce que j'avais vécu et pourquoi j'avais créé cette fondation. Et puis, ben, de fil en aiguille, Nicole m'a demandé si j'aimerais travailler au bureau. Alors, ben, à l'époque, vous savez qu'en documentaire, hein, on a du travail une certaine période. Oui. Tout d'un coup, il y a un creux et hop, ça repart. Donc, j'ai expliqué ma situation. Elle dit, ben, écoute, pendant les périodes de creux, essayons. Alors, on a essayé, puis essayer a été adopté.
Oui. Donc, okay.
Puis ben maintenant je travaille à plein temps à rando, et puis parfois je fais des randonnées d'une journée, donc les randonnées du samedi, comme Marie-Josée en parlait tout à l'heure. Et puis ben j'ai fait deux voyages en Grèce et puis au Costa Rica avec Nicole, parce qu'il y a cette particularité aussi avec Nicole, c'est que elle forme elle-même ses guides.
Ah.
Donc, il y a personne qui rentre comme guide à Rando plein air, qui ambitionne de devenir guide, sans aller faire au moins un voyage avec Nicole.
J'aimerais qu'on y revienne tout à l'heure. Il y a probablement des auditeurs, auditrices qui aimeraient devenir peut-être guide, et j'aimerais qu'on en parle tout à l'heure. Mais parlons un peu de Nicole. Je nous ai mis au parfum un tout petit peu au début là avec. C'est quand même une femme exceptionnelle. C'est elle qui a mis sur pied Rando plein air en 1981, qui est là depuis et qui continue à faire des voyages. Comment vous la décriviez?
Ben, je sais pas comment la décrire. C'est un phénomène, cette femme-là.
Dans tous les sens du mot.
Dans tous les sens du mot. Je ne sais pas comment elle fait pour abattre autant de travail. Ben c'est sûr, il y a deux personnes au bureau, il y a les guides, mais je veux dire, comme c'est elle qui a monté elle-même ses circuits, il a fallu d'abord qu'elle aille les faire, qu'elle connaisse tous ses prestataires, parce que ça va du chauffeur d'autobus à la compagnie d'autobus.
C'est beaucoup une question de réseau, de relations.
Ah oui, il faut que ça clique. Il faut que ça clique. Avec Nicole, on perd pas de temps. Si ça clique, ça clique, ça clique pas, on passe un autre appel. Donc, alors c'est tout ce travail qu'on découvre quand on part en voyage avec elle, parce qu'elle travaille avant de partir, mais elle travaille sur place.
Sur place, c'est une femme de passion.
Il faut
Même pour les guides, aussi, pour tout le monde, hein, ça prend une passion, le feu sacré.
Ben, quand on sait que ça fait du bien, on veut juste le communiquer aux autres.
Ah, c'est bien ça. C'est bien. C'est ce qu'elle disait, le mieux-être des autres passe par la marche. Oui. Alors, on va parler un peu de Rando plein air, en sens que, d'abord, c'est bien structuré, c'est ce que j'entends.
Oui, c'est super bien préparé. Quand on est un participant, moi au départ j'étais participante et c'est ça qui m'émerveillait à chaque fois. C'était bien organisé, bien encadré. La première sortie que j'ai fait, je crois que c'était la montagne d'argent dans les Laurentides. Ben tout de suite, j'ai senti qu'on était pris en charge et qu'on était en sécurité. Il y a toujours plusieurs guides dans un voyage. Souvent, comme une sortie d'un samedi, ça va être 3 ou 4 guides, ce qu'on voit jamais dans d'autres agences qui font ce genre de choses-là. Donc, on veut d'abord et avant tout le bien-être et la sécurité des gens. Donc, souvent, on va se séparer en deux groupes. Il y aura toujours un guide devant, un guide derrière. Donc, les gens ne sont jamais laissés à eux-mêmes. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment super bien organisé. Et c'est comme ça, je parle des samedis, mais c'est comme ça aussi pour les voyages. Tout est planifié d'avance, grâce à Martine, Annette et Nicole, qui font le travail d'équipe. Au bureau.
Donc, la formule d'accompagnement est importante.
Ah,
en fait, certaines entreprises qui offrent des forfaits semblables peut laisser peut-être plus de liberté, quoi que ce soit. En fait, il faut être, il faut dire que les formules varient d'une entreprise à une autre.
Mais je dirais pas liberté, ça a rien à voir avec la liberté, parce que les gens, nous, on encadre bien à Rando plein air, mais les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent.
Ah, okay,
si une journée, ils ne veulent pas suivre, ils suivent pas. S'ils se disent, moi, je suis trop fatigué aujourd'hui, je reste dans le village, je visite, parfait. Les gens sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'ils paient pour un forfait, ils paient pour un voyage, X nombre de marches, mais c'est leur voyage. Alors, si une journée, ils suivent pas, aucun problème.
Ce que j'ai trouvé d'intéressant et rassurant en même temps, c'est qu'il y a un, comment je pourrais dire, un processus de sélection ou d'acceptation des participants pour s'assurer que chaque personne peut effectivement effectuer le voyage.
Ben oui, ça c'est vrai que les inscriptions se font pas sur Internet. Avec Rando plein air, on veut parler aux participants. Il y en a qui ont l'habitude de rando plein air depuis qui ont suivi Nicole, hein, donc ils sont là depuis plus de 30 ans. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui veulent savoir qui on est, ce qu'on fait. Alors, il est certain que la première chose, c'est de savoir quel voyage ou quelle sortie la personne veut faire. Et connaître ensuite la personne. C'est pas qu'on veut être indiscret, mais c'est que cette personne-là, elle doit faire sa journée ou son voyage et être heureuse quand elle rentre.
Ah, c'est bien.
Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi différents niveaux. Et que, ben, on pose des questions, hein, parce qu'on veut être sûr que la personne choisit le bon voyage ou la bonne sortie pour elle. Donc, il y a des niveaux promenades, il y a des niveaux promenades plus où il y a des dénivelés, donc on donne toujours le dénivelé. Puis, il y a des références. Nicole, elle est partie sur la base du Mont Saint-Hilaire, par exemple, pour savoir si la personne va pouvoir faire un voyage où il y a des niveaux modérés. On va lui poser la question à savoir si elle fait le pain de sucre au Mont Saint-Hilaire. En combien de temps elle le fait? Alors évidemment, les gens disent, mon Dieu, je l'ai déjà fait, mais en combien de temps? Je dis, regardez sur notre site internet, vous avez toutes les données. Et puis, allez-y, recommencez l'exercice autant de fois que vous pouvez, et puis essayez de vous dire que vous avez, là j'y vais vraiment de mémoire, mais 53 minutes pour le faire, aller-retour, et que vous êtes bonne pour vous inscrire à ce voyage. Êtes-vous bien équipée? Parce que ça, c'est un critère.
Beaucoup.
On va pas à rando plein air, même pour une randonnée d'une journée, avec des chaussures de sport. Non. Il faut la chaussure de randonnée adéquate. Alors, quand c'est niveau promenade, ça peut être la chaussure de randonnée. Mais quand c'est des montagnes, on va un petit peu plus haut, ben là, on demande la botte de randonnée qui protège la cheville, hein, qui maintient bien la cheville. Après, bon, ben, il y a des gens qui marchent avec des bâtons. Alors ça, c'est pareil. Il y en a qui ont l'habitude de marcher sans. Bon, s'ils en ont, apportez-les donc, ça coûte pas cher, ça prend pas beaucoup de place. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. Hein. Donc, c'est bien s'hydrater, prévoir deux bouteilles d'eau.
Il me semble que c'est un espèce de dialogue avec le participant ou le client, à savoir, non seulement un client veut aller à tel endroit, un instant, on va en parler un tout petit peu, êtes-vous en mesure de le faire? Il y a peut-être telle destination qui serait mieux pour vous, pour assurer votre bien-être, que vous reveniez de votre voyage très content. Donc, une espèce d'échange de dialogue, c'est ce que j'entends.
Ah bah il faut, je vous dis, parce que ça peut bloquer et la personne qui se sent pas le niveau du groupe, ça bloque le groupe, ça peut déstabiliser le groupe et puis les guides qui sont responsables aussi, parce qu'il y a un itinéraire à faire dans la journée, puis bah il faut s'y tenir parce que quand on arrive à la fin de la journée, on doit être à tel point, donc il faut que la personne soit capable de suivre cette journée-là et puis de savoir que elle va faire le bon voyage. Et c'est pas parce que ça fait 10, 30, 30 ans qu'elle voyage avec rando plein air que le voyage qu'elle prévoit de faire va être le bon pour elle. Parce qu'on change tous.
Ah ben oui.
On a eu un genou, s'est blessé un genou.
On vieillit un peu.
Ben voilà, donc on a mal à un pied. Donc, il faut repasser tout en revue.
C'est intéressant, c'est vraiment intéressant, cet échange. Écoutez, on prend une courte pause et là, on part en voyage. Nous sommes de retour en compagnie de Marie-Josée Turcotte et de Martine Brouillot. Nous sommes prêts à partir. Nous avons discuté, on sait exactement où on veut aller, nous sommes bien préparés, la forme physique y est, on part. Alors, avec rando plein air, il y a, si j'ai bien compris, trois catégories de voyages. Il y a les longues randonnées. Et puis là, ben, on va un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? On parlait du Népal, justement. Mm-hmm. Et quelles sont les grandes destinations offertes par rando plein air?
Ben, il y en a plusieurs.
Oui.
Est-ce que je fais du name dropping?
Oui. Quelques-unes, en fait, ici et là sur le globe.
Ben, Costa Rica, ça, c'est en Amérique centrale.
Oui.
Ben, chez nous, les îles de la Madeleine. Cette année, okay. Il y aura le Maroc, oui. L'Islande, Tour du Mont-Blanc, Normandie-Bretagne, Yellowstone, la Corse, la Grèce,
oui,
Saint-Jacques-de-Compostelle pour les méditatifs qui aiment marcher. Donc, ce sont pas mal là, les destinations de longue durée pour cette année.
Oui.
Et ça aussi, c'est la même chose. Donc, c'est varié. Il y a des voyages qui sont plus accessibles au niveau de la forme physique, d'autres qui sont plus demandants. C'est sûr que si on pense à la Corse, autour du Mont-Blanc, Yellowstone, bon, ce sont des voyages de montagne. Alors, il faut aimer la montagne, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faciles. Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a un petit bout au début, beaucoup dans la montagne, mais les autres bouts sont quand même assez accessibles. C'est,
okay.
c'est plus
oui,
de, la longue,
oui, oui.
de la longue
Alors,
marche.
Encore une fois, on choisit selon notre condition physique et nos aspirations, si on veut. Comment ça se déroule, un voyage comme celui-là? Est-ce qu'on part de ville en ville, on passe de ville en ville ou on fait une espèce de retraite pendant 2-3 jours dans un endroit et on rayonne autour? Comment s'organisent ces voyages?
La plupart des voyages de longue durée sont comme ça. On va dormir 2 ou 3 jours à chaque endroit et on rayonne toujours à partir de cet endroit-là. Bon, la plupart du temps, quand on vient d'arriver dans une ville, il va y avoir une visite guidée en français le lendemain de l'arrivée et tout, pour que les gens reprennent les jambes et le décalage horaire. Ensuite, on a toujours, la plupart du temps, un autobus à notre disposition et là, on va vers d'autres destinations, des montagnes. Et ensuite, on va changer de ville comme ça. Et on fait un petit mini-tour de pays, tout en faisant donc des randonnées. Et dépendamment d'où on va, encore une fois, c'est soit de la montagne, soit des choses plus accessibles, mais c'est pas mal toujours comme ça. Et c'est toujours accompagné, c'est toujours un voyage marche-culture. Il y a toujours des visites guidées 2 à 3 dans chaque voyage. Donc, ça donne la possibilité également d'apprendre sur les gens.
Les guides de l'endroit.
Oui, des guides locaux qui nous font visiter leur ville. Et c'est toujours très apprécié parce que ça nous permet, de marcher, évidemment, mais aussi d'avoir tous les commentaires brillants de ces guides locaux qui peuvent nous apprendre énormément de choses sur leur pays.
On se découvre et on découvre le pays.
Exact.
Voilà.
Alors, il y a des formules pour certains pays. Par exemple, moi, évidemment, je parlerai du Népal.
Oui.
Où là, oui, excusez-moi.
Une idée fixe.
Non, où là, on ne prendra pas le bus pendant le trek.
Non.
Donc.
L'hélicoptère. Non, c'est une blague, ça.
Non, là, on part vraiment du point A jusqu'au... on s'arrête dans des lodges. On est en montagne. Donc là, on va marcher pendant 5 ou 6 heures. Là, vous allez dormir dans un lodge. Et puis, le lendemain, vous faites une autre partie de votre trek. Donc, c'est le seul endroit. Il y a peut-être la Patagonie, non?
Mais le Tour du Mont-Blanc.
Le Tour du Mont-Blanc aussi, bah oui,
ça,
évidemment.
On part du début à la fin. Il n'y a pas d'autobus. Donc, on se promène.
Voilà. Donc, là, c'est pour ce qui est du Népal. Je continue.
Oh, oui, vas-y.
Mon pays de prédilection. Là, on a des porteurs, comme se veut la façon de travailler dans ce pays-là. Donc, il y a des porteurs. Donc, les gens, ils ont, de la même façon que pour tous les autres voyages, leur sac à dos pour la journée. Et puis le soir, ils retrouvent dans leur chambre qui leur est assignée, donc leur sac et leurs affaires. Voilà.
Et ces voyages, en fait, vous tenez compte de tout. En fait, les gens sont délestés de leurs soucis là au niveau matériel.
Oh là là, mais oui, moi là, je leur dis quand j'accompagne des groupes,
oui.
Laissez donc votre montre à la maison.
Mais maintenant, c'est pas possible. Ils ont tous des montres intelligentes.
Il y a le téléphone.
En combien de temps j'ai marché?
c'est ça. Mon rendement, ma vitesse.
C'est le bonheur. Mais c'est dur, C'est dur. Moi, je me souviens d'avoir accompagné un groupe au Népal et on a à peine arrivé au lodge. Les personnes nous... Bon, alors demain. Alors là, mais regardez. Allez prendre votre sac.
Regardez
allez prendre
la nature.
Votre douche, regardez l'Himalaya devant vous. Et puis demain, c'est un autre jour.
Oui.
Voilà.
Excellent.
Mais c'est un peu ça. Je pense que les gens choisissent ce type de voyage parce que justement, ils peuvent se délester de leurs responsabilités. Et donc, c'est à nous, les guides, de voir à ce que tout fonctionne. Et trouver des plans B, c'est nécessaire.
Voir C.
On y viendra au plan B parce que ça fait partie du rôle des responsabilités de guide. Vous avez aussi des voyages de courte durée. On parle, l'Élo-Grue, l'Abitibi-Témiscamingue, Boston, les choses comme ça. C'est un peu la même formule quand même?
Même formule,
essentiellement
mais beaucoup plus
la
court.
Même chose.
Mais à ce moment-là, il n'y a pas d'avion. On part en bus. On dirait qu'on fait un petit voyage de collégien. Là. On monte dans le bus.
Avec des bons autobus. Hein,
des très bons autobus. Donc, pas des bosses jaunes. Non, ça, c'est très confortable. Et c'est ça. Donc, comme l'île aux grues, c'est 2 jours. La plupart des autres, c'est un long week-end. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est même un peu plus long. Je pense que c'est cinq jours. Mm-hmm. Donc, on part en bus. Oui. Donc, le groupe se suit pendant tous ces jours-là. C'est agrémenté pour Boston, par contre, d'une visite guidée avec un guide à Boston. Les autres endroits, c'est différent. On visite plus la nature et tout. Mais c'est le même principe. C'est ça. Donc, les gens n'ont qu'à penser à amener leur sac de jour. Le reste est véhiculé. Si on doit changer d'hôtel, tout est transporté. On va même suggérer les endroits où aller manger. L'hôtel est déjà prévu. Les petits déjeuners sont toujours à même l'hôtel. Donc, c'est vraiment... C'est une façon d'oublier les responsabilités et de se faire tenir un petit peu par la main, sans être tenu par la main, mais juste de se dire, bon, allez, j'ai le voyage, c'est organisé, je monte
tout en
dans
étant
bus,
libre.
Tout en étant libre comme
vous
l'air.
Disiez,
oui, il y a des moments de temps libre, d'ailleurs, dans les itinéraires.
Oui, c'est ça. Il faut. Pour pouvoir vagabonder, errer un peu.
Oui, puis absorber ce qu'on vient de vivre aussi. Hein, au bout de 4 ou 5 jours, des gens ont besoin de souffler. Oui. Se retrouver dans le milieu dans lequel ils se trouvent.
Parce que c'est un début du voyage, évidemment, de se retrouver soi-même, se connaître un petit peu plus, peut-être.
Oui. Puis les gens de se familiariser avec d'autres aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens seuls qui voyagent. D'avoir cette organisation permet de partir rassurer des femmes.
C'est majoritairement
beaucoup de femmes seules. Oui. Pour toutes sortes de raisons, ou même des fois les maris, c'est parce qu'ils veulent pas marcher, donc ils laissent partir à sa femme, et puis voilà, elle va se faire des amis, et puis ils vont se retrouver l'année suivante sur une autre destination. Ça, c'est très drôle. C'est très sympathique, ça.
Mais c'est intéressant aussi d'observer du premier jour au dernier jour les groupes qui se forment, les affinités entre les gens, et c'est vraiment fascinant, parce qu'au départ, c'est vrai qu'il y a des gens qui reviennent, mais la plupart du temps, les gens ne se connaissent pas, à moins qu'ils soient là avec un ami ou une amie, mais sinon, c'est de voir, c'est ça, les interactions, comment les gens vont vers l'autre, comment ils vont partager, comment ils vont organiser ce voyage-là pour être bien. Ça, c'est intéressant de voir comment ça se forme pendant les journées où on est avec eux.
Mais oui.
Et vous êtes appelé à susciter un petit peu ces conversations, ces rapprochements, j'imagine, en tant que guide.
Oui, c'est sûr qu'on
sans
va...
Sans forcer, bien
sûr. Sans rien forcer.
Ça arrive naturellement.
Mais c'est sûr qu'on va provoquer des soupers de groupe. T'sais, surtout au début du voyage. Oui. Parfois, on va en faire 2 ou 3 pendant le voyage, puis on le demande, parce que avant de partir en voyage, 3 semaines avant, il y a toujours une espèce de rencontre avec le groupe pour leur expliquer le voyage, l'itinéraire, à quoi s'attendre, et on leur demande si vous voulez bien, on pourrait organiser quelques soupers de groupe pour permettre au groupe de mieux se connaître et tout. Et j'ai jamais entendu personne dire non. Donc, on les prévoit, et à ce moment-là, mais oui, surtout au début, là, le premier ou le deuxième soir, de pouvoir rassembler tout le monde pour que les gens puissent déjà fraterniser ensemble et mieux se connaître. Ça aide à partir le groupe.
Oui. Marie-Josée, vous avez parlé au début des randos du samedi ou les marches citadines. C'est un volet des activités de rando plein air qui m'intéresse. Il se passe quoi, par exemple, dans une marche citadine? On parle d'une marche à Montréal ou dans une autre ville, c'est ça?
C'est à Montréal. C'est dans différents quartiers et j'en ai accompagné quelques-unes et c'est vraiment très, très intéressant parce que on a beau vivre à Montréal, on connaît pas nécessairement l'histoire de tous les quartiers. Donc, il y a le Haut-Westmont, le Bas-Westmont, il y a Hochelaga-Maisonneuve, il y a Griffintown, Saint-Henri ou Verdun. J'en oublie peut-être quelques-uns. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
Oui, le parc Frédéric-Bac aussi.
Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a surtout Élisabeth, mais il y a aussi Francine. Donc, elles sont 2 là, à avoir préparé ces marches-là. Et c'est vraiment très intéressant parce que on nous fait découvrir des monuments, où on nous fait découvrir, je sais pas, je me rappelle du Bas Westmount. Il y a une bibliothèque merveilleuse avec plein de verrières et tout. Donc, on entre vite fait dans ça, on se promène. Puis, et surtout celle-là, je me rappelle, les gens venaient pas de ce quartier-là. Évidemment, on veut choisir un quartier qu'on connaît pas. Et les gens disaient, mon Dieu, mais je connais pas ça, mais c'est donc bien beau. Il y a plein de parcs. Donc, c'est ça, c'est découvrir la nature en ville aussi, entre autres, avec ces endroits-là où il y a des grands parcs, beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs. Donc, on connaîtra, évidemment, se promener dans les rues également de cette ville-là, là, dans le Westmount, par exemple, apprendre où Leonard Cohen a grandi.
Oui.
Toutes sortes de choses comme cela. Donc, on apprend toutes sortes de choses sur notre ville et c'est vraiment très, très instructif et intéressant. Et tout en marchant, bien sûr.
Tout en marchant. Et puis, ce qui est très drôle, c'est que d'une saison à l'autre, parce que ça se fait... Ça se fait pas durant l'hiver, ça se fait au printemps et puis à l'automne. Et il y a des gens qui font 2-3 fois la même marche citadine, tellement ils ont aimé ça.
C'est le même circuit.
Ah, c'est le même circuit. Oui, parce que des fois, ça c'est comme les voyages. Hein, on différent. Oui, c'est ça.
Okay.
Et les voyages sont différents aussi tous les ans. Il y en a entre 12 et 14. Et puis, les marches citadines, c'est pareil, ça peut changer. Mais il y a des gens vraiment qui ont été passionnés par ou Francine ou Elisabeth qui vivent leur marche là, parce que ça dure 2h30, 3h,
mais un bon 3
on dirait vraiment qu'elles étaient là à l'époque ou qu'elles racontent elles-mêmes, c'est très drôle. Et on a même dû, tellement c'était populaire ces sorties là, j'en ai fait une avec Elisabeth au quartier Saint-Henri, il y avait plus de 100 personnes qui se sont présentées. Alors là, évidemment, on est en ville. Hein.
Donc,
pour des raisons de sécurité, on a dû limiter les groupes à 40.
Oui.
Parce que d'abord, il faut entendre l'explication. Il faut traverser des rues. Donc, quand on est 100, c'est autre chose. Il faut être bien entendu. C'est ça. Donc, on a tout ce qu'il faut maintenant. Mais ça a été tellement populaire que c'est pour ça qu'on les présente des fois deux fois dans la même année.
Ah oui.
Parce que les gens les demandent.
Oui. Les randos du samedi, ça diffère de ces marches citadines?
Oui, parce que l'on sort de la ville à chaque fois.
Ah.
C'est toujours à l'extérieur. Donc, on part le matin soit du métro Crémazie ou du métro Longueuil, selon que les gens demeurent Montréal, Rive-Nord ou sur la Rive-Sud. Et donc, on part avec un lunch, avec un petit sac à dos d'une journée. On se laisse transporter. On arrive sur les lieux. On a une marche d'une journée complète. Donc, on grimpe. Normalement, si on grimpe, normalement, on va aller manger en haut de la montagne. Après ça, on redescend. Puis, c'est le retour. Mais là aussi, toujours une offre variée. Je pense spontanément à l'île d'Orléans, qui est beaucoup plus une promenade à ce moment-là.
Vous allez quand même assez loin, là.
Oui. C'est des sorties d'une journée. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de route.
Oui.
Mais, les randonnées en valent la peine, là. C'est vraiment.
Les gens aiment bien.
Les gens adorent. Ah oui. Comme on va à Mégantic aussi, ça aussi c'est relativement loin, mais c'est tellement beau, la montagne est tellement belle, donc les gens aussi apprécient énormément de pouvoir le faire comme ça.
Et les marches sur le Mont-Royal, j'imagine qu'on peut le faire en solo, je l'ai fait je ne sais pas combien de temps, est-ce qu'on apprend quelque chose d'autre ou c'est beaucoup pour socialiser?
Ce sont des marches d'entraînement en fait, parce que les gens qui veulent venir faire des voyages avec nous veulent savoir où ils en sont. Donc, on explique bien sur le site, ce sont des marches d'entraînement si vous voulez faire des voyages. Donc, on marche entre 4 et 6 km heure. Donc, les gens devant vont à 6 km heure, ceux derrière vont à 4 km heure. Et parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre. Donc, on reste avec eux quand même et on leur explique que peut-être qu'il faudrait qu'ils aillent s'entraîner un petit peu avec un chrono, voir à quelle vitesse il fonctionne, à quelle vitesse il marche, et de marcher régulièrement, pas seulement le dimanche, mais de marcher régulièrement pour pouvoir améliorer leur rythme et tout ça.
Pour éventuellement participer à des voyages un peu plus exigeants.
Oui,
là,
parce que même un voyage de promenade, c'est quand même beaucoup de kilomètres dans
une
journée.
Absolument, absolument. Ça peut être 15, 20, 25.
Ça va pas autant que ça, mais 10, 12, 15 max, je dirais.
Oui.
Mais donc, il faut quand même tenir le rythme.
Oui.
Mais oui. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a des voyages qui sont, par exemple, je vais parler de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le voyage se fait, mais l'autobus emprunte une route, évidemment, pas le chemin des pèlerins. Mais si vous êtes fatigué à la fin de votre matinée, vous pouvez retrouver le bus au village où vous allez pique-niquer, hein, avec tout le groupe. Et ne pas marcher l'après-midi ou l'inverse. Si vous sentez une journée où vous n'êtes pas en forme, là, vous prenez l'autobus, puis il va vous arrêter au village où tout le monde se retrouve, et puis vous visitez le village. Mais c'est n'est pas le cas de tous les voyages. Mmh. Par exemple, pour la Normandie et la Bretagne, ben ce voyage-là, il a beau être du niveau promenade, l'autobus, lui, il se rend pas sur les falaises et puis il traverse pas les petits villages normands ni bretons. Mmh. Donc, oui. Faut prévoir que même si il est du niveau promenade, le concept n'est pas le même. Donc, faut y penser, faut vraiment penser à le dire et aux participants qui veulent s'inscrire, puis qui se disent, oh, ben, si je suis fatiguée en cours de route, je pourrais reprendre l'autobus. Ben, non, pas pour la Normandie.
Non.
Pour marcher.
C'est ça. Donc,
alors, Marie-Josée et Martine, nous avons bien voyagé. Nous allons prendre une autre courte pause et ensuite, on parle du rôle de guide.
Pas facile.
Alors, nous sommes de retour avec Martine Bruyot et Marie-Josée Turcotte et nous allons parler du rôle de guide. Et puis, parce que, comme je le mentionnais en début d'émission, il y a peut-être certaines personnes qui aimeraient devenir guide, mais aussi, quand on s'en va en voyage, avec un voyage, un tour organisé comme ça, on aime bien savoir, connaître la nature du rôle d'une guide au niveau des responsabilités, des services et tout. Alors, si on en parlait un tout petit peu, c'est quoi votre rôle, les tâches, vos responsabilités en tant que guide?
Ça dépend des voyages. Sur le Mont-Royal, oui. C'est pas grand-chose.
On accompagne, on marche.
On accompagne, c'est ça. Mais dès qu'on prend un transport, donc comme soit un jour le samedi, soit les autres 3 ou 4 jours ou les longs voyages, mm-hmm. Ben c'est sûr qu'il y a de la préparation en amont. Il faut savoir où on va, sans que ce soit comme un guide touristique. Il faut quand même un peu dire aux gens où on s'en va, quel type de montagne, dans quelle chaîne de montagne, qu'est-ce qu'on va faire,
quelle est la distance. Est-ce que vous faites beaucoup de lectures sur l'internet ou des volumes ou en fait des livres, des choses comme ça pour vraiment vous imprégner de l'endroit? De l'environnement où vous allez.
Absolument. Ouais. Là, je vais accompagner le Costa Rica. Mm-hmm. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que je lis des livres sur l'Amérique latine, sur le Costa Rica. Je lis les journaux locaux. Je me renseigne. Où est-ce que je vais être? Dans quel genre de terrain? C'est sûr que je parle beaucoup également avec Normand Desranleau, l'autre guide avec qui j'irai. Moi, c'est ma première fois. Lui, ce sera sa 6e. Il connaît le chien. Il connaît bien. Alors, on échange des trucs. On a des petites applications. Alors, je vais aller annoter tous les randonnées qu'on va faire et tout ça. Donc, je dirais que être guide, c'est une tonne de bonheur et c'est une tonne de responsabilité.
J'espère qu'il y a un échange de temps en temps.
Absolument. Non, absolument. Mais c'est énormément de responsabilité. On a un groupe avec nous. Il faut s'assurer que tout le monde est bien. Il faut s'assurer que tout le monde est prudent, qu'il y a assez sécure pour tout le monde. S'il y a un pépin, il faut être là, il faut aider.
Mais les premiers soins, il doit y avoir des blessures des fois ou quoi que ce soit, ou même pire, de graves incidents, ça peut se produire. Il faut être aguerri,
Il faut suivre 40 heures de secourisme. On appelle ça secourisme en région éloignée.
Oui.
Donc, donné par des gens qui sont apparentés avec la Croix-Rouge. Mm-hmm. Et heureusement, parce que moi, j'ai eu à m'en servir. J'étais très contente d'avoir suivi le cours. Je ne vais pas nommer de nom ni d'endroit ni rien, mais parce que je ne veux pas... Si la personne ne veut pas qu'on parle de ça, je ne veux pas qu'elle soit identifiée. Oui.
Non, mais c'est important.
Mais on était dans un voyage de montagne et on était en haut de la montagne. Oui. On venait juste de prendre une pause pour manger notre lunch. Tout le monde était reposé et tout. Et on repart. On est sur du plat. Et cette personne-là bute sur une roche et tombe. Mm-hmm. Et là, moi, je suis derrière, là, je m'amène, et elle bouge pas, là, je suis pas très rassurée. Ouh. Et, je vais faire la version courte. Moi, je vois une grosse pierre, je me dis, faut pas que ce soit sa tête. Et finalement, elle avait mal au bras. Donc, on a tout fait, les manipulations pour savoir si on pouvait la bouger. On lui a enlevé la dragonne du bâton, le sac, s'assurer qu'elle est pas en état de choc, faut l'asseoir, bon, ça va. Mais là, finalement, elle avait très mal au bras. Alors là, j'ai réappris à faire les chats pour que je la passe par. Donc, on l'a mis comme il faut et tout. Mais là, on est en haut de la montagne. Mmh. Et là, je sais par où on est monté. Il faut redescendre par le même endroit.
C'est assez escarpé, j'imagine.
C'était escarpé pas mal. Beaucoup de roches et tout. Là, je me dis, comment cette personne-là va redescendre. En tout cas, elle nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés parce qu'elle est redescendue avec un seul bâton. Et Normand Desranleau, qui était de ce voyage-là aussi, a pris son sac et c'est lui qui est descendu avec elle et un autre participant. Moi, j'étais avec le groupe devant, puis on s'arrêtait à chaque intersection pour être sûr qu'ils étaient corrects. Et par la suite, donc, Normand est allé à l'hôpital avec elle. Et effectivement, elle avait une fracture de l'humérus. Donc, il faut savoir, c'est ça, se débrouiller. Et on a été chanceux, on n'a pas été obligé de la faire évacuer parce que ça aurait été autre chose.
Oui, mais, oui, oui.
Donc, tout peut arriver dans un voyage comme c'est ça. Ça, c'est un petit peu...
Et vous êtes bien préparé pour tout, en fait.
Ben, on essaie d'être bien préparé. Oui. On essaie, avant de partir, de prévoir tout ce qui peut être prévisible, mais il y a toujours des imprévus qui arrivent dans un
voyage. Et Nicole vous offre une bonne formation. Si j'ai bien compris.
Ben, on
vous êtes bien encadré.
Oui,
là, bien,
oui. Ah ben, on ne peut pas faire partie de rando plein air si on n'a pas ces formations-là. Même pour une randonnée d'une journée, on n'a pas besoin de grimper l'Himalaya pour ça.
C'est ça, quand même sécurisant.
C'est utile.
J'imagine que vous devez être aussi en bonne forme physique.
Oui.
Il ne faut pas seulement suivre. Il faut mener et non pas suivre.
Ben oui. Oui. Il faut être alerte. Hein.
Oui.
Il faut que la tête soit là et puis réagir vite.
Oui, mais c'est ça, mais il faut être en forme. Puis bon, moi, j'ai toujours aimé me garder en forme. J'ai pas toujours eu le temps comme je l'aurais voulu, mais tu sais, de savoir que je vais probablement accompagner le tour du Mont Blanc, c'est sûr que ça me motive beaucoup à me mettre en forme et à garder la forme et à l'améliorer.
Et ça m'intéresse donc, aussi. Les Alpes, tout ce qui est montagne m'intéresse beaucoup, vraiment. Je sens une passion chez vous pour votre métier de guide. Je sais pas si c'est un métier, mais en fait, vous êtes guide, là. Il y a des moments forts, j'imagine. Il y a des moments où qui sont presque transcendants là. Lorsque vous faites ça, c'est merveilleux quand même.
Hein? Ah ben.
Même vous travaillez très fort, mais vous avez des moments où vous pouvez vous éclater et rire un peu, en fait, participer.
Absolument. On pleure aussi.
Oui, aussi.
De joie.
On pleure. Oui,
d'émerveillement.
On est ému devant les gens qu'on accompagne par moment. Tu l'as eu aussi, ce moment-là, où des gens qui s'inscrivent ou qui ont vécu quelque chose de difficile dans leur vie, mais qui s'inscrivent et puis qui n'en disent pas un mot. Et qui arrivent jusqu'à la fin de leur voyage alors que secrètement ils se demandaient s'ils arriveraient à le faire. Et puis, ils nous le disent à la fin. Excusez-moi, j'en parle, là, puis ça me...
Vous avez...
Les larmes montent.
Vous êtes émue vous-même,
c'est,
là.
Moi, j'ai vu ça plusieurs fois.
Ça, c'est très touchant.
Ouais.
Quand quelqu'un, à la fin, vient te voir et te dit « Je repars en meilleur état que lorsque je suis arrivé », moi aussi, il y a une petite larme à ce moment-là qui monte. Ça, c'est très touchant. Ce qui est très touchant aussi, c'est des personnes... La plupart du temps, ce sont des femmes, comme on disait. C'est beaucoup des femmes qui s'inscrivent. Et qui n'ont pas nécessairement la forme pour faire la sortie qu'on est en train de faire. Mais là, on le sent, donc on reste là, on les accompagne, et on voit toute la difficulté, on voit la détermination aussi. Et quand ces femmes-là arrivent en haut, le bonheur de voir ces sourires de ces femmes qui ont dit « Ah, je pensais jamais monter cette montagne-là, je l'ai fait ». Et le double bonheur, c'est quand on revoit ces femmes-là dans une autre sortie et que là, elles se sont entraînées et qu'elles sont encore mieux et qu'elles ont encore envie d'en faire. Donc, c'est là où on devient des marchandes de bonheur.
Parce que la marche,
c'est vraiment ça. Je dis toujours à la blague, c'est le meilleur antidépresseur et c'est gratuit. Donc, on marche, on sécrète en nous des hormones qui font qu'on est mieux. Et il y a aussi dans ces voyages tout l'aspect d'aller vers l'autre, qui est toujours super intéressant aussi, de connaître des gens qui font autre chose, qui viennent de d'autres milieux. C'est très enrichissant. Hein? Je disais tout à l'heure, une tonne de bonheur, une tonne de responsabilité, mais au bout du compte, c'est hyper enrichissant.
C'est une tonne d'humanisme avant
tout.
Oui,
exactement.
Ça, ce côté-là, pour rentrer à rando plein air, je pense que Nicole est très bienveillante par rapport à ça. Il faut que ses guides soient attentifs à l'autre.
C'est le mot
que je cherchais. Ça peut être une petite la bienveillance vis-à-vis. Puis des fois, c'est une petite chose discrète. Hein. C'est quelqu'un qui a une ampoule, mais qu'on ne peut pas le dire. Bon, mais on la voit tirer de la patte un peu.
Ah oui.
Bon, alors discrètement, on s'en va. Auriez-vous mal à un pied? Je pense que je dis, écoute, à la prochaine intersection, on s'arrête, puis on va prendre le temps de faire ce qu'il faut.
C'est le mot que je cherchais, bienveillance. C'est ça, rando plein air, c'est de la bienveillance.
Est-ce que c'est votre récompense
Oui.
Tous ces beaux moments là, parce que comme vous disiez, vous avez quand même beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de préoccupations au jour le jour de vous assurer que tout fonctionne bien, mais la récompense.
La récompense, c'est ce qu'on vient de dire, je pense. C'est ce côté humain.
C'est ça.
La rencontre avec l'autre. Soutenir quelqu'un qui pensait pas grimper en haut de la montagne. Soutenir quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile et qui se confie en bas de la montagne et qui veut absolument aller jusqu'en haut. De soutenir cette personne-là, c'est des moments merveilleux. Bon, moi, j'adore les montagnes. L'autre moment merveilleux, c'est quand on arrive en haut et qu'on a une vue 360 sur des paysages. Peu importe la montagne, c'est toujours magnifique. Il y a plein de récompenses. Pense vraiment, c'est très enrichissant, c'est le bon mot.
Oui, oui. Puis c'est vrai que Nicole aussi prend soin au retour de voyage, elle laisse peut-être passer une semaine ou deux, mais de prendre des nouvelles des participants pour savoir comment ils ont trouvé leur voyage. Et des fois, les gens, une semaine après être rentrés, mais spontanément, appellent au bureau en disant, écoutez, là, c'est le plus beau voyage de ma vie.
Vraiment? Bon, ben là, oui. Ça dit tout.
Voilà,
hein.
Un participant, c'est pareil, je donnerai pas de détails, là, mais quand du haut de ses 76 ans, avec des problèmes de santé, appelle en disant « ça a été le plus beau voyage de ma vie ». Bon, ben ça...
On pleure un peu.
Comme disait ma grand-mère, larmes, c'est mieux qu'une claque sur le nez.
Pas mal mieux.
J'ai envie de vous poser la question... Elle est injuste un peu. Avez-vous des destinations préférées?
Moi,
à part de toutes, là.
Ouais. Moi, je dirais l'inconnu. L'inconnu, c'est ma destination préférée. Parce que, moi, j'ai fait quelques-uns de ces voyages, mais la plupart, je les ai pas faits. Donc, à chaque fois, c'est un peu un inconnu. C'est une découverte. Et l'inconnu, c'est la destination, mais c'est aussi les gens avec qui on va partir. C'est tout. C'est un ensemble de choses. Et c'est la découverte, c'est le plaisir d'aller vers l'autre, le plaisir d'aller vers un lieu nouveau, c'est le plaisir d'aller dans un environnement qu'on connaît pas, c'est le plaisir de la découverte renouvelée à chaque voyage, dans le fond. Alors, c'est difficile de dire, toi, je sais que tu vas dire le Népal.
Non, pas du tout! Pas forcément! Non, ben là, moi, j'ai fait mon 16e voyage, là, en fin d'année, au Népal, pendant un mois et demi, mais c'est mon 16e. Il n'y en a pas deux pareils.
Mais non, ça c'est sûr. Exact.
Il n'y en a pas deux pareils. Alors, parce que moi j'emmène les gens des fois dans des petits coins que moi-même j'ai découverts, mais qui sont pas dans l'itinéraire. Parce que je pars du principe que avant, à la rencontre préparatoire qui se fait, je dis, il faut que vous soyez prêts aux surprises. Tout n'est pas écrit.
Oui.
Donc vous oubliez ce qui est écrit et vous vivez votre journée.
Oui. Alors je prends des notes.
Alors voilà.
Martine, Marie-Josée, le temps file, j'ai encore quelques questions. Aller vers les autres, je l'ai entendu souvent et Nicole m'en avait parlé aussi. C'est important, aller vers les autres dans vos voyages, dans tous les voyages.
Écoutez, moi je pars du principe que on part en voyage, quelle que soit l'agence, pour moi c'est une question de solidarité et d'une. Parce que on s'en va dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, on va faire travailler des gens locaux, que ce soit dans un pays riche, que ce soit dans un pays moins riche. Donc déjà, faut penser que je vais certainement faire du bien à ceux que je m'en vais rencontrer sur place. Qu'ils soient chauffeurs d'autobus, qu'ils soient hôteliers, qu'ils soient restaurateurs, ou alors guides. Je pars avec l'idée que ceux que je vais rencontrer, je vais avoir du plaisir à leur faire plaisir.
Oui.
Et à les connaître.
Même
si on passe pas une tonne de temps avec eux, comme un chauffeur d'autobus, c'est pas nécessairement le même à tous les jours, mais bon, c'est des gens agréables, c'est des gens qui peuvent nous apprendre des choses sur leur pays, un guide local, la même chose. Et souvent, ça n'a pas besoin d'être long, une rencontre, ça peut être bref et ça peut être très enrichissant. Et c'est ça le bonheur de voyager, c'est vraiment d'aller rencontrer des gens qu'on connaît pas, des gens qu'on reverra probablement jamais, mais qui vont peut-être nous marquer par qui ils sont, par ce qu'ils nous ont raconté.
Nous faire évoluer, nous faire avancer, nous faire grandir, nous faire se connaître.
Ouais. Et je compare ce rôle de guide un peu à un professeur. J'ai enseigné pas très longtemps dans une école de radio et de télévision. Et j'avais pas seulement l'impression, je recevais beaucoup plus que ce que je donnais. Alors, on me demandait de donner, de partager ce que moi j'avais vécu, mon travail, mais j'avais tellement l'impression de recevoir plus. au contact de ces gens-là, je comprenais mieux ce que je faisais. Et le voyage, c'est un peu la même chose. Quand on est en contact avec plein de gens, avec des endroits différents, ces gens-là nous enrichissent et nous font mieux comprendre aussi qui on est. Alors, c'est vraiment, c'est un cadeau de la vie. J'arrête pas de dire ça. C'est un cadeau de la vie.
Autant en tant que guide que de participant.
Ah oui.
Ça vaut pour les deux, là.
Bah oui, ça vaut pour les deux. Oui. Quand on est ouvert. Mais c'est sûr que quand le guide, moi, je trouve, quand le guide se dit, alors, je parle encore de ma destination préférée.
Le Népal.
Bon, ben moi, là, quand je vais dans un monastère, je vais pas juste visiter. Là. Moi, il faut que je rencontre un Rinpoché ou alors des moines. Et puis, je veux qu'on passe une journée avec eux.
J'insiste.
J'ai les contacts maintenant. Et puis, les gens, le matin, quand ils se lèvent, et je leur dis au petit déjeuner, écoutez, aujourd'hui, il y a ça qui était prévu. Mais avant, moi, je vous propose ça. Ça vous tente d'aller voir des petits Tibétains, puis de voir comment ils vivent dans un monastère. Bon, on s'en va passer la matinée avec eux.
Mm-hmm.
Bon.
Oui.
Ben, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours.
Non.
Donc, ça vous tente d'apprendre la cuisine népalaise. On s'en va voir une dame, on rentre chez elle, vous allez voir comment est l'intérieur d'une maison, comment c'est fait.
Oui.
Et
le
on
quotidien.
Cuisine avec, le quotidien, c'est ça.
Oui.
Ou alors, j'ai des gens avec qui on va faire un atelier de perles. Un atelier de peinture, un atelier de poterie. Ça paraît bête, on peut faire de la poterie à Montréal, mais on prend pas le temps. Et là, j'arrive à Katmandou, puis on voit des gens stressés. D'abord, le voyage est long, faut y penser. Montréal, Katmandou, c'est 22 heures de voyage. Donc là, commencer tout de suite par aller grimper les montagnes, non. D'abord, on va se faire un univers,
on
se calme le pompon, puis on va se faire un univers qui est complètement différent. Bah, allons donc tourner un peu sur la terre, puis faites-vous une première tasse là, puis après on en reparlera.
Et là j'ai une autre question, il reste 2 minutes, vraiment rapidement. On fait ces voyages pour se changer, se connaître. Est-ce que ça peut changer le monde aussi?
C'est une grande prétention.
Ça, c'est pour déposer la question à chacun, je pense.
Oui. Ben, je pense que changer le monde, c'est trop gros, là. Mais quand j'étais jeune, j'avais cette prétention-là.
Oui.
J'ai compris que c'était... Non, ça ne fonctionnait pas comme ça, à la vie. Mais je pense que peut-être qu'on a un petit iota, là, tout petit, d'influence sur les gens qui voyagent avec nous, ne serait-ce que par les échanges, ne serait-ce que par le plaisir qu'on a ensemble, les échanges. Mais changer le monde, malheureusement...
Petit à petit.
Comment disait Mère Teresa, je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte d'eau a son importance quand même.
Mais voilà, c'est là où peut-être on voulait en venir, c'est que d'une personne à l'autre, d'un voyage à l'autre, on peut changer notre environnement et l'environnement autour de nous. Ça peut prendre longtemps.
Mais c'est dans l'action.
C'est dans l'action. Voilà, c'est bon.
Sans le dire.
Alors, Marie-Josée et Martine, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui.
Ben, merci
de
à vous,
nous
Denis.
Avoir donné l'eau à la bouche, le goût de partir.
Ben oui.
Et je vous souhaite bon voyage.
Merci. Et on vous attend.
On vous attend tous et toutes.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Merci à nos deux invités d'aujourd'hui, Martine Bruyot et Marie-Josée Turcotte, deux guides chez Rando Plein Air. Merci également à notre toujours sympathique et souriant Valérian Fournier à la régie. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse cette semaine, tout naturellement avec une pensée de Ralph Waldo Emerson, la randonnée est le meilleur moyen de découvrir la beauté de la nature et la richesse de soi-même. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.